France Culture. Avoir raison avec Günther Anders par Aïda Ndiaye.
Troisième épisode, Hiroshima est partout. Hiroshima est partout. C'est la vérité du XXe siècle, à en croire Günther Anders, et probablement une vérité du XXIe siècle également, comme Fukushima et la guerre en Ukraine nous l'ont malheureusement montré. Mais c'est surtout le thème central de l'œuvre d'Anders, qui de 1945 à sa mort, n'eut de cesse de revenir à ce sujet dans sa pensée, mais aussi dans ses engagements militants. « Ce combat est notre destin », écrit-il ainsi dans Hiroshima et partout précisément. En quoi donc la bombe atomique est-elle l'événement central de notre époque ? Que faire et que penser face à la perspective d'une apocalypse qui semble certaine ? Et en quoi la peur, voire la panique, peuvent-elles constituer des stratégies efficaces pour reculer cette fin des temps ? Jusqu'où, d'ailleurs, cette stratégie peut-elle être poussée ? Jusqu'à l'appel au meurtre ? Entre la catastrophe écologique à venir, qui semble aujourd'hui inéluctable, et la résurgence de la peur d'une attaque nucléaire, jamais peut-être l'analyse de cet aspect de l'œuvre d'Anders n'a été aussi urgente. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Bruno Villalba. Bonjour.
Bonjour.
Bruno Villalba, vous êtes professeur des universités en sciences politiques à AgroParisTech et membre du laboratoire Printemps du CNRS. Vous avez notamment fait paraître au PUF cette année une édition des 10 thèses sur Tchernobyl de Günther Anders et votre dernier ouvrage « Politique de sobriété » apparu en avril dernier aux éditions du Pommier. Bruno Villalba, je l'ai dit donc rapidement dans mon introduction, la question de la bombe atomique, de l'arme nucléaire, du nucléaire militaire et civil est centrale dans l'œuvre de Anders. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pour commencer pourquoi, tout simplement, est-ce que ce thème occupe une place si importante dans l'œuvre de ce penseur ?
Alors, c'est d'abord parce qu'il a été frappé, comme il le dit lui-même, de stupeur face à l'explosion atomique. En fait, il confesse qu'il est resté muet, c'est-à-dire que son imagination, sa pensée, sa bouche et sa peau, c'est ce qu'il dit, hein, tout cela refusait de travailler devant la monstruosité de l'événement. Et donc c'est vraiment quelqu'un qui a été saisi, à la fois dans sa pensée et dans son corps, par la monstruosité et le gigantisme de cette explosion. Mais à partir de là, il va produire une réflexion sur la modernité, à partir de là il va produire une réflexion sur la technique, et il va considérer que cette double explosion atomique sur le sol japonais, contre des populations civiles, eh bien, constitue l'événement majeur de l'histoire moderne. Alors, pour plusieurs raisons. D'abord, parce que cet événement marque une nouvelle ère. C'est le jour à partir duquel l'humanité, dit-il, et il précise de manière irréversible, a la possibilité de s'exterminer elle-même. Donc vous voyez, on est là dans une rupture totale du cours de l'histoire de l'humanité. Il y a un avant et un après.
Plus que la rupture que constituent le génocide et la Seconde Guerre mondiale.
C'est l'amplification de l'acte et l'immédiateté de l'acte. Il a fait un parallèle entre la construction d'un rapport de destruction organisé, massif, le camp, et la bombe. C'est le même système de production d'une technique, si vous voulez, d'élimination systématique. Simplement, dit-il, la monstruosité de la bombe fait qu'il n'y aura plus de distinction entre eux et nous dès lors qu'on va utiliser la bombe. C'est-à-dire que ce ne sera pas une partie de la population qu'on va éliminer de manière systématique, mais ce sera l'ensemble de l'humanité que l'on va détruire. Et donc cette proportion, cette disproportion de l'acte d'extermination fait qu'il va accorder un statut spécifique à la bombe.
Et c'est ça qui fait aussi, donc, comme vous étiez en train de l'expliquer, je vous laisse poursuivre, cette dimension totale que vous avez évoquée.
Tout à fait. La totalité, c'est l'idée que désormais, on rentre dans une période qu'il qualifie du temps de la fin, c'est-à-dire ce temps de l'attente de l'inévitable prochaine explosion atomique. C'est ce qu'il appelle le délai, une notion sur laquelle on pourra revenir peut-être tout à l'heure.
Oui, on va y revenir.
C'est-à-dire que cette possibilité de destruction concerne la totalité de l'humanité. Donc vous voyez, c'est vraiment le caractère massif et irréversible de l'existence de la bombe qu'il met en évidence. C'est donc l'horizon planétaire commun désormais. Hein. Ce n'est pas une partie de la population qui va être assujettie à l'existence de la catastrophe, c'est l'ensemble de l'humanité qui est désormais sous le feu de cette explosion atomique. Il va considérer que c'est aussi un renversement de la conception de l'action politique. On ne raisonne plus par rapport à la question atomique, c'est la question atomique qui reconstruit l'ensemble des catégories de la raison politique. Et donc, vous voyez, cette inversion, elle est extrêmement profonde, tant d'un point de vue épistémologique, hein, comment on construit un raisonnement scientifique à partir de la bombe, et c'est aussi une implication, une conséquence politique extrêmement forte, comment on construit le rapport à la politique à partir de la bombe.
Oui, c'est-à-dire une mise en question de la rationalité où cette question devient absolument première, en fait.
Tout à fait. Elle est incontournable dans le sens où c'est ce que va dire quelques années plus tard Michel Serres, qui va reprocher à ses professeurs de philosophie de ne pas avoir entendu le bruit d'Hiroshima. C'est une jolie formule qui montre bien comment finalement la philosophie traditionnelle, la philosophie notamment de la technique, qui continue à considérer que l'homme est l'acteur principal de l'organisation de la technique, eh bien Anders montre que finalement, la possibilité de la destruction totale de l'humanité montre bien que nous sommes passés dans une autre forme de conception philosophique, dans une autre forme du rapport à la conception de la philosophie. Et donc, par exemple, les catégories du bien et du mal, qui traditionnellement sont pensées à partir de la catégorie humaine de l'homme, hein, sa capacité d'action, eh bien finalement sont réinterrogées à partir du moment où l'homme a produit un outil qu'il ne maîtrise plus, l'explosion atomique, qui impose ses propres catégories d'analyse avant l'utilisation de la bombe, après l'utilisation de la bombe, avant l'existence de l'humanité et la disparition de l'humanité.
Alors, on a vu dans l'épisode de mardi qu'on a consacré à l'obsolescence de l'homme, comment est-ce que ça s'articule à la pensée de Anders sur la technique, à la notion de décalage prométhéen notamment. Ce que je voulais vous demander, Bruno Villalba, c'est quelle est l'originalité de la pensée d'Anders sur ce point, parce que au XXe siècle notamment, mais pas seulement, les philosophes de la technique, c'est pas ce qui manque, j'ai envie de dire, et c'est pas non plus, ce ne sont pas non plus les philosophes du nucléaire ou de l'arme atomique qui manquent. Donc, qu'est-ce que sa pensée a d'original par rapport justement à ses contemporains et aux nombreux autres philosophes qui se penchent sur cette question?
Alors, Anders a une démarche qui est une méthodologie pessimiste, assez pragmatique. C'est-à-dire qu'il ne raisonne pas dans une hypothèse de l'utilisation prochaine de la bombe, si nous utilisons la bombe, mais au contraire, il va construire sa pensée philosophique à partir de l'existence de l'utilisation de la bombe. Non plus son usage hypothétique, mais le fait que la bombe a déjà été utilisée et réutilisée. Et donc ça crée une différence de perception fondamentale. On pense à partir de la bombe, eh bien finalement c'est ce qu'il propose, c'est une philosophie de la divergence, c'est justement cette dimension de décalage hein, croissant entre ce qui a été réalisé, la double destruction de villes japonaises et l'extermination industrielle dans les camps, ce qui a été amplifié, le développement de la puissance atomique qui va nous anéantir. Si nous ne prenons garde à cette utilisation prochaine. Et puis, ce décalage entre notre capacité à ajuster notre morale et nos actes à la hauteur de cette évolution technique. Et donc, cette réflexion, finalement, elle se base non pas simplement sur une possibilité de la morale humaine de s'ajuster, de négocier l'usage, l'existence de la bombe, mais au contraire, à partir d'une réalité empirique. L'existence de la bombe et son utilisation, l'existence des camps et l'emploi des camps. Et donc, vous voyez bien, c'est pas du tout. Il a une formule qui est très jolie. Il dit, il n'y a plus de conditionnel ici, plus de si, mais seulement encore un quand. Et donc, vous
Oui.
voyez, c'est ce décalage de perception qui est extrêmement important.
Oui, c'est ça qui est aussi assez original et peut-être même encore pour nous aujourd'hui assez difficile à penser finalement, c'est-à-dire cette certitude que la fin des temps, la catastrophe, l'apocalypse, quel que soit le terme qu'on veuille lui donner, va arriver. Aujourd'hui encore, ça nous paraît assez irréprésentable justement.
Alors, c'est ce qu'il appelle le globocide, vous voyez, la destruction totale du globe, c'est-à-dire non seulement de l'espèce humaine, mais de toutes les entités vivantes. Alors, il a très peu de phrases, hein, il a très peu d'éléments d'explication sur l'écologie, et par extension, vous voyez, la destruction de l'humanité entraînera la destruction du monde vivant. Alors, pourquoi est-ce qu'on est dans ce déni, ce renoncement? Eh bien, parce que c'est une source profonde d'angoisse. Et nous avons rationalisé notre rapport à l'angoisse par le phénomène de la construction d'une réponse intellectuelle, la dissuasion nucléaire. Nous avons construit une espèce de métaphysique de la morale, par exemple Bloch ou Jonas, etc., qui réaffirment la priorité de l'action humaine sur le déterminisme technique. Et donc, nous avons inventé des catégories qui tentent d'ajuster ce rapport à la technique. Anders va balayer un peu tout ça d'un revers de manche, de manière assez exagérée, hein, comme il sait le faire dans ses écrits et dans ses propos, en considérant que, de toute façon, on est entré dans une troisième révolution industrielle, celle de l'industrie mondiale de la mort, la production industrielle de la bombe et du camp. Et donc, on ne peut pas échapper à cette logique mortifère, parce qu'effectivement, elle est tellement présente, elle imprègne tellement nos existences quotidiennes, que nous la mettons à distance par ce phénomène du déni, par ce phénomène du renoncement de voir la réalité. Mais pourtant, cette réalité, elle existe, puisqu'elle a déjà été utilisée, les camps et la bombe.
Alors, vous avez évoqué la question de la dissuasion. Je vous propose qu'on écoute justement à ce propos Raymond Aron, qui s'était également penché sur cette question de l'arme atomique et qui nous parle précisément de la dissuasion.
Depuis 25 ans, il y a eu plusieurs guerres, y compris des guerres faites par une puissance nucléaire, mais jamais on n'a envisagé sérieusement l'utilisation des armes nucléaires. Et aujourd'hui, à tort ou à raison, j'ai le sentiment profond que les peuples ne ressentent pas la terreur atomique ou la terreur nucléaire comme terrifiante. Ils la vivent comme une espèce d'équilibre, avec la conviction que ni d'un côté ni de l'autre, les hommes d'État ne seront assez fous pour utiliser les armes militairement qu'ils utilisent diplomatiquement. Cela dit, si au lieu de deux grandes puissances nucléaires, il y en avait 10, peut-être la situation deviendrait-elle plus grave. Mais aujourd'hui, l'État planétaire, l'État universel dans ton rêve est un rêve, et que la seule paix possible est une paix à l'ombre des épées. Je ne crois pas que les peuples soient affectivement atteints par ce que l'on appelle la terreur nucléaire. Ils ne la vivent pas comme terreur, ils la vivent comme paix possible.
C'était Raymond Aron sur France Culture dans Paradoxe le 4 mai 1971. Alors, vous avez évoqué, Bruno Villalba, les différents philosophes, autres penseurs du nucléaire et de la catastrophe avec lesquels finalement Günther Anders se discute, Ernst Bloch, Hans Jonas, Karl Jaspers. On va se concentrer sur Raymond Aron. On a fait ce choix. En quoi est-ce que finalement ce que nous dit ici Raymond Aron, qui il y aurait une espèce de perspective d'équilibre de la terreur. Bon, le principe de la dissuasion est clair. Pourquoi est-ce que pour Hans Jonas, ça ne marche pas?
Pour Anders.
Pardon, excusez-moi.
Ça ne marche pas.
Pour Günther Anders.
Alors, Raymond Aron, lui, s'inspire d'une théorie qui a été mise en place au début des années 60, hein, par des Américains comme Don Frederick. Et ce qui est intéressant dans cette approche que Raymond Aron fait sienne, hein, c'est qu'on aboutit à une vision très pragmatique de la stratégie atomique. C'est-à-dire que l'arme atomique est un des éléments d'une analyse géopolitique qui considère qu'on peut aboutir à une forme de légitimation de l'équilibre de la terreur. C'est ce qu'on appelle la dissuasion. Donc, c'est la fiction d'une diplomatie permanente, de la négociation entre les grandes puissances atomiques, qui rationnellement vont effectivement échanger des logiques de négociation, mettre en place des logiques de négociation pour éviter le recours à la bombe. Et donc, on va finalement construire une sorte de maîtrise effective, une vision qui vise à considérer qu'on peut maîtriser effectivement l'usage de la bombe, et puis qu'on peut anticiper aussi sur les conséquences de l'usage de la bombe. Autrement dit, si vous me détruisez, je vous détruis, donc rationnellement, personne n'a intérêt à se détruire. Et donc, on voit bien que le principal point d'entrée de Raymond Aron, c'est l'idée que nous continuons à maîtriser l'usage effectif de la bombe, à la fois dans son développement, hein, la surpuissance de l'arme atomique, la prolifération des armes, etc., leur perfectionnement technologique, et ensuite nous assumons aussi la gestion des conséquences de l'usage, et notamment l'une des conséquences qui est que nous ne l'utiliserons pas, parce que rationnellement, personne n'aurait intérêt à l'utiliser. Et puis, finalement, Raymond Aron aboutit à l'idée que c'est une arme comme les autres. Vous voyez, elle est intégrée dans la politique de défense de la souveraineté nationale des États, au même titre que d'autres armes, mais simplement, elle se distingue par la puissance de sa destruction. Et on va retrouver cette idée à peu près dans d'autres auteurs, comme Karl Jaspers, par exemple. Eh bien, ce qui est intéressant, c'est que cette institutionnalisation de la frappe nucléaire, elle est parfaitement conjoncturelle. Elle est parfaitement construite dans un rapport de la guerre froide. Vous voyez cet équilibre de la terreur par rapport à un ennemi qu'on peut identifier et un ennemi qui est tout aussi rationnel que soi. Cette existence mutuelle de la puissance de destruction crée une forme d'équilibre. Anders va considérer que ce raisonnement il est complètement obsolète. D'abord parce que c'est pas une arme comme les autres. C'est-à-dire que c'est ni un moyen rationnel, ni un instrument maîtrisé de destruction. L'ampleur de la destruction fait que les conséquences sont inimaginables, les implications sont en cascade sont inimaginables. Il faut bien se rendre compte que, par exemple, aujourd'hui, la Tsar Bomba, la plus grande bombe atomique qui est connue, le simple détonateur de la bombe correspond à la puissance de la destruction d'Hiroshima. Vous voyez, on n'est plus du tout dans les mêmes échelles de démesure. La prolifération nucléaire n'a pas été maîtrisée. Alors, certes, on a des accords qui tentent à limiter le nombre d'ogives nucléaires, mais simplement, on voit bien que graduellement, d'année en année, le nombre d'États qui ont accès à cette puissance nucléaire et la possibilité de destruction de cette puissance nucléaire est importante.
Mais on pourrait penser que cette terreur dont parle Aaron là, Anders s'en saisit également et il se revendique lui-même dans les dites sur Tchernobyl par exemple comme un semeur de panique. Il évoque aussi l'importance de la peur, des émotions, donc cette idée que la terreur peut être un moyen efficace pour retarder la fin des temps pour créer ce délai que vous avez évoqué, ça recoupe un petit peu quand même des dimensions de ce que propose Anders face à cette catastrophe annoncée.
Alors, la différence de l'usage de la terreur chez Anders, c'est la terreur des conséquences. Chez quelqu'un comme Raymond Aron, c'est l'idée que la terreur devient un outil de la négociation. Et Anders lui exprime plutôt l'idée que de toute façon, puisque nous avons déjà utilisé l'arme atomique dans le passé par deux fois sur des populations innocentes, il y aura toujours une raison justifiable, justifiée, légitime, légitimable, pour utiliser à nouveau la bombe. Et c'est là-dessus la différence, c'est-à-dire que la rationalité de l'usage de la bombe n'est plus un argument pertinent dès lors que la bombe elle-même existe. Son contrôle technique est impossible sur le temps long. Son contrôle militaire est impossible sur le temps long. Alors, c'est ce qu'il dit dans Hiroshima et partout. Plus encore, Nagasaki est partout, en fait. Et ce qui est intéressant, c'est le rapprochement entre l'usage de la puissance militaire et le développement de l'énergie civile, des centrales nucléaires et des centres d'enfouissement de déchets, etc. Autrement dit, on voit bien qu'on assiste à une prolifération de la menace atomique à l'échelle de l'humanité. Et c'est à la fois une catastrophe militaire et une catastrophe civile qui nous attend dans l'usage et le développement de cette bombe.
Voilà, c'est ça. Ce qui se répète, ce n'est pas seulement l'usage militaire de la bombe, mais ce sont aussi les catastrophes liées aux centrales atomiques.
Voilà. Et le fait que nous n'ayons, dit-il, nous n'avons pas effectivement pu prendre la mesure de l'existence de la répétition. Autrement dit, nous nous sommes habitués à la répétition. Nous avons évacué l'ampleur de la destruction. Par exemple, lorsqu'il va à Hiroshima prononcer un discours, il constate qu'on a, effacé la mémoire de la catastrophe. Et qu'à Nagasaki, c'est encore pire. C'est-à-dire que l'existence même de la bombe, pour nous, elle se réduit à Hiroshima. Et c'est pour ça qu'il inverse, dans beaucoup de ses écrits, il va inverser l'idée que ce qui est plus important, c'est Nagasaki plutôt que Hiroshima. Et c'est pareil, Tchernobyl, aujourd'hui, nous avons Fukushima. Et vous voyez que la question de la répétition fait que elle n'a pas eu de conséquences. Et ça, c'est un terme clé chez Anders, c'est-à-dire que nous n'avons pas su tirer les conséquences de l'acte créé.
Alors justement, face à ces catastrophes, la question qu'on se pose, c'est que faire, comment agir, comment ne pas rester finalement eh bien un peu fataliste face à l'arrivée inéluctable de ces catastrophes. Je vous propose qu'on écoute un extrait d'un texte de Günther Anders, L'avenir pleuré d'avance, que vous nous avez conseillé, Bruno Villalba, et nous verrons ensuite quelles solutions Günther Anders nous propose.
France Culture, avoir raison avec Günther Anders par Aïda Ndiaye.
Le délai que tu m'as laissé est trop court pour que je perde encore du temps à me plaindre. J'éviterai donc de me lamenter, de ne pouvoir me plaindre. J'utiliserai les faiblesses de ces hommes, je les prendrai telles que tu les as créées et j'en ferai mes forces. Je tromperai ceux qui vivent dans l'illusion. J'entraînerai ceux qui se sont laissés entraîner. Je rendrai encore plus curieux ceux qui le sont. Ceux qui ne me laissent pas leur adresser la parole devront me poursuivre de leurs questions pour que je leur réponde. Je rendrai encore plus angoissés ceux qui le sont, jusqu'à ce qu'ils prennent part à la vérité. Je vais leur faire peur en cabotinant. Je les conduirai de la peur à la compréhension, puis de la compréhension à l'action. Je te mets donc en garde. Ne t'étonne pas lorsque tu me verras faire l'histrion. Ton étonnement me laissera froid. Une vérité déguisée est plus vraie qu'une vérité qui ne trouve pas d'écho. Une transgression désespérée est plus vertueuse qu'une vertu qui jamais ne désespère.
Tu n'as rien vu à Hiroshima, rien.
J'ai tout vu, tout. Ainsi, l'hôpital, je l'ai vu, j'en suis sûre. L'hôpital existe à Hiroshima. Comment aurais-je pu éviter de le voir ?
C'était donc une lecture de L'avenir pleuré d'avance de Günther Anders, un texte de 1961, lu ici par Jules Barbier. Vous aurez reconnu le tapis, comme on dit en langage radiophonique, de la bande originale d'Hiroshima, mon amour, le film de 1959. Dans cet extrait, c'est donc Noé qui s'adresse à Dieu et qui exprime sa révolte. On trouve plusieurs idées dans cet extrait, Bruno Villalba, à la fois la question du délai, qui est centrale aussi dans la réflexion de Günther Anders, sur le sujet qui nous occupe aujourd'hui, c'est-à-dire la catastrophe atomique à venir, et aussi la question importante de l'exagération dans le style, dans le discours que Anders déploie face à ce sujet.
Alors, dans ce texte, Günther Anders mobilise une notion très très importante chez lui, c'est ce qu'il appelle le délai. C'est-à-dire, c'est pas simplement une période de temps, le délai, hein, c'est vraiment considérer le temps qu'il reste avant la situation irréversible de l'explosion atomique. Et donc ce délai, il peut être très court, de quelques instants, ou il peut être aussi très long, si c'est que nous ayons mis en place une action politique qui tend à différer la prochaine explosion atomique. Et donc, vous voyez, contrairement à ce que pourrait laisser supposer son texte qui termine sur la notion de désespoir, le désespoir, ce n'est pas un renoncement à l'action. Au contraire, c'est à partir du moment où on a finalement renoncé à l'espérantite, hein, c'est comme ça qu'il qualifie le travail de Bloch, par exemple, et qu'on a accepté de construire une action politique à la hauteur de l'enjeu, de la catastrophe, et bien finalement, on a cessé d'être naïf pour pleinement se plonger dans une action politique offensive. Et donc, il faut mettre fin à des répertoires d'actions obsolètes, hein, par exemple, briser les machines, faire des happenings, etc.
Oui, il y a des phrases assez cyniques et drôles sur les gens qui se tiennent par la main, qui font des marches pacifiques. Enfin, voilà, il y a quelque chose d'assez moqueur.
Je dirais pas cynique oui, ni moqueur, parce qu'il l'a fait, parce qu'il les a pratiqués pendant des décennies. Et simplement, il se rend compte que ces moyens n'ont servi non pas à rien, puisque ça a permis effectivement peut-être d'empêcher l'intensification du développement du nucléaire, mais en tout cas, ils n'ont pas permis un arrêt complet d'un dispositif mortifère. Et donc c'est pour ça qu'il souhaite produire une politique de ce qu'il appelle la contre-violence.
C'est ça, donc l'un de ses derniers textes, La violence, oui ou non, de 1987, voilà. Porte en effet exactement sur cette question, c'est-à-dire jusqu'où peut-on aller dans les moyens qu'on va déployer face, disons, à la terreur nucléaire, et est-ce qu'on peut aller jusque à la violence contre les dirigeants qui déploient ces armes ?
Oui, il le dit explicitement, détruisez ceux qui sont prêts à vous détruire. Autrement dit, il renverse la charge de la preuve. Ceux qui sont les promoteurs du nucléaire civil et militaire sont des terroristes. C'est ce qu'il explique dans des thèses sur Tchernobyl. C'est-à-dire parce que ces acteurs veulent commettre consciemment un crime. On pouvait encore, en 1945, considérer que nous étions finalement non responsables, hein, coupables, mais pas responsables. Aujourd'hui, nous savons ce que produit la bombe, et donc nous décidons, ou la centrale nucléaire, nous décidons sciemment de développer quelque chose qui va se retourner contre nous. Et donc, c'est ce qu'il appelle des nihilistes. Ces gens sont des nihilistes, c'est-à-dire qu'ils voient le monde comme un anéantissement possible. Et on l'accepte. Eh bien, nous devons, dit-il, refuser cette possibilité de l'anéantissement. Et parce que nous sommes dans un état d'urgence, eh bien, nous devons construire une légitime défense, dit-il, au risque de rentrer dans une confrontation extrêmement directe, hein, offensive, avec l'autorité politique, les responsables militaires, les responsables du nucléaire civil.
Ce qui est paradoxal, c'est qu'en dépit de cet appel, ou en tout cas de cette théorisation, comme vous venez de le dire, de la violence comme une forme de légitime défense, malgré tout, il se définit dans ce même texte, la violence oui ou non, comme pacifiste.
Un pacifiste radical.
C'est ça.
C'est-à-dire que ce n'est plus un pacifiste qui simplement s'oppose par sa présence à quelque chose qui est en train de se mettre en place, mais un pacifiste qui anticipe sur la possibilité de la destruction. Donc le pacifisme d'Ansner, qu'il a développé pendant des décennies un pacifisme traditionnel, c'est-à-dire, vous voyez, un pacifisme de l'opposition à la construction d'une bombe, à l'usage de la bombe, etc. Et maintenant, il est dans un pacifisme d'anticipation, c'est-à-dire que plus nous nous rapprochons de la situation de la destruction générale, plus nous devons radicaliser ce pacifisme. Et donc ce pacifisme, il doit flirter aux limites de la légalité, il doit pouvoir agir à la hauteur de l'enjeu et des conséquences de l'enjeu. Et donc vous voyez, on n'est plus du tout dans un renoncement simplement moral, on est dans un renoncement politique de l'action offensive.
Merci beaucoup. Bruno Villalba. On peut retrouver toutes les références de vos écrits sur le site franceculture.fr et dans l'application Radio France, comme tous les épisodes de cette série. On se quitte sur ce morceau d'Orchestral Manoeuvre in the Dark, intitulé Enola Gay, du nom de l'avion qui a largué la bombe sur Hiroshima. Cette émission a été réalisée par Daphné Leblond et préparée par Jules Barbier. Merci à Alex Dang à la technique. Demain, pour le quatrième épisode de notre série, nous nous intéresserons à la morale et au droit dans l'œuvre de Günther Anders avec mes deux invités, Ninon Granger et Valérie Pratt. À demain! Proud of little boy.